Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes non pas le vendredi, mais le samedi 19 février 2022. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 105. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien depuis Londres, accompagné de la méga coruscante Laetitia. J'ai décidé d'enrichir mon vocabulaire et d'apprendre un nouveau mot par semaine. Elle sublime des sujets auxquels j'aurais même pas prêté attention et arrive à me faire prendre position dessus. Cette semaine, on va voir dans quelle direction Laetitia va m'amener dans cet épisode. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Et ce n'est pas Radio Londres, mais c'est bien LCDE cette semaine qui vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news e-commerce, des news metaverse, du quick commerce, du sport commerce et si tout en fait n'était que commerce finalement. On parlera Snoop, Dr. Dre, on parlera de PepsiCo et surtout de live shopping. On prendra un café avec Nico du Retailoscope, un ami, un passionné et cette semaine nous prendrons la direction de Macao.
Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun et on vous challengera avec des jeux autour de l'actualité de la semaine. Laetitia,
Adrien, prêt?
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne fallait surtout pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Après Lille, le concept de proximité Casto débarque en Ile-de-France, dans la ville des Lilas et de Levallois. Pour rappel, le concept Casto, ce sont des petits magasins Castorama.
Petit bateau qui inaugure sa première boutique dédiée à la seconde main près de Troyes, son fief historique.
Et des résultats plus qu'au vert pour Carrefour, avec surtout un e-commerce en hausse. Un chiffre d'affaires en croissance de 2,3% et l'e-commerce en augmentation de 20% par rapport à 2020 dans l'alimentaire.
Je crois avoir vu que l'e-commerce apaise pour 3% dans les revenus globaux, si je ne me trompe pas, j'ai fait mes calculs. Ça veut dire que l'opportunité pour Carrefour de continuer à croître, elle est encore énorme. C'est que le début, ils ont encore beaucoup d'opportunités de croissance. Walmart, l'e-commerce représente désormais 13% des ventes avec 73 milliards de dollars.
Veni Vidi Vici, Sébastien Dado devient le VP Metaverse de Ledger. Souvenez-vous, c'était le big boss d'Alibaba. Il est parti il y a quelques semaines et finalement, il rejoint l'équipe française de Ledger.
T'as kiffé quand t'as vu ça, non?
Oh, mais grave.
Je t'ai dit, c'est bon.
Mais j'étais
dans
trop
le
heureuse, je voulais lui envoyer un message.
Si un mec smart comme ça, il va là-bas, donc c'est bon, ça valide.
Non, mais en plus, le jour où je vois ça, genre 4 jours avant, j'avais reçu ma clé Ledger. Je fais, j'ai vraiment fait le bon choix.
Ok, bon, c'est très bien. Quick Commerce, moins de 10% des Français connaissent Gorillaz, Cajou, Flink et Getir.
En gros que nous et puis la communauté LCDE. Taux de fraude à la carte bancaire. Merci le sans contact et la DSP2. Le taux de fraude au paiement par carte bancaire a baissé durant le premier semestre 2021. Il est de 0,149% et c'est le taux le plus bas historiquement.
Le printemps va ouvrir son premier magasin à l'étranger au Qatar.
Carrefour toujours, Carrefour qui s'associe à la société Everly en France. Souvenez-vous, on en avait parlé. Là, ça y est, c'est officiel et ça démarre. Et rappelez-vous, avec Everly, Carrefour va proposer de réaliser vos courses en ligne, mais elles seront livrées à domicile et par un personal shopper.
La news what the fuck de la semaine. Alors cette semaine, Laetitia, t'as une news, c'est quoi la news what the fuck? Soit parce que ça t'a étonné ou soit parce qu'elle est complètement bizarre.
Alors, elle m'a ni étonnée et je la trouve pas bizarre. Elle m'a mise en bouche et mise en appétit. En fait, c'est le groupe Carambar & Co. qui lance sa boutique en ligne. Et ça m'a rappelé une news qu'on a traitée au tout début de ce podcast. Alors, je crois que c'était C'est Moi qui avait fait la même chose pour l'ensemble de ses marques. Et du coup, Carambar & Co. suit le pas. Carambar & Co. pour rappel, c'est Carambar, Malabar, Michoco, Lutti, Crema, La Pie qui chante. Et voilà. Et je suis allée sur le site. C'est plutôt bien fait. Ça rappelle pas mal de choses de notre enfance. Est-ce qu'il y a un vrai marché sur ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont faire qu'acheter des bonbons et aller sur un site qui ne vend que des confiseries comme ça? Je n'en sais absolument rien, je n'ai pas d'avis, mais c'est ni what the fuck, c'est juste, c'est mignon comme news.
Il est live le site?
Ouais, il est live le site.
L'outil, c'est pas des bonbons, c'est des armes. Franchement, je comprends pas comment on peut donner ça à des enfants. Carambar, je valide les autres.
Bon. Tu poses la bonne question. Je pense que la cible, c'est peut-être pas les enfants. Je pense que c'est nous, la bonne cible.
C'est les quadras.
Ouais, c'est ça. Et au lieu d'aller acheter sur du cajou ou je sais pas quoi, on peut aller directement sur le site Carambar & Co. Et en plus, j'ai découvert qu'il y avait de très grosses quantités. C'est pas des petits sachets. Hein.
T'as regardé sur quel site ils sont? Non,
t'as
fait attention.
Je vais
aller regarder. Je vais fouiner un peu. La news inutile dont on s'emballait. Alors, on essaie d'en avoir une par semaine, mais Laetitia, elle adore casser les règles dans tous les sens. Et donc, Laetitia, tu as deux news inutiles. Alors, c'est lesquelles ?
Alors, la première, c'est The Truth Social. C'est le réseau social de Donald Trump. Souvenez-vous, Donald Trump qui n'a pas été réélu à la présidence des États-Unis. Souvenez-vous, l'invasion du Capitole. Et souvenez-vous, il a été viré des principaux réseaux sociaux sur lesquels il avait l'habitude de mener ses batailles, dont notamment Twitter. Et puis, un jour, il s'est dit, c'est pas grave, vous me virez, et moi, je vais faire mon propre réseau social. Ce réseau social s'appelle Truth Social et tous les jours, notamment sur Twitter, parce qu'il y a pas mal des trolls et de comptes parodiques qui disent c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Non, en réalité, j'y suis allée, je me suis pris un gros, alors pas erreur 404, mais je sais plus quoi, mais en tout cas, j'avais un access denied. Ça ne fonctionnait pas, alors que normalement, ça devait être live là, ces jours-ci. Et puis après, en faisant des petites recherches, j'apprends qu'en réalité, c'est live, mais ça n'est ouvert qu'à le premier réseau de Donald Trump et tout un tas de conservateurs. Donc je n'appartiens ni au réseau de Donald Trump et je ne suis ni conservatrice, en tout cas je ne suis pas américaine. Donc du coup c'était certain que l'accès allait m'être refusé. C'est une news que je trouve aussi marrante parce que je me demande combien d'argent il faut pour monter son propre réseau social et surtout pour un réseau social qui ne fonctionne pas. Voilà, je pense que c'est encore un beau projet de Donald Trump qui va tomber à l'eau.
Oui, ça fait un moment qu'on en parlait effectivement.
Ouais.
Bon, rien d'étonnant effectivement.
Ouais,
alors vas-y, c'est quoi la deuxième news ?
Elle a toujours réseaux sociaux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste youtubeur Mr. V. Mr. V, il passe de YouTube directement au rayon surgelé. Mr. V a composé toute une gamme de pizzas avec des noms très rigolos, Pizza della Mama ou je ne sais plus quoi d'autre, je ne sais plus en tête. Et puis Carrefour a décidé d'être distributeur. Et Auchan aussi, de ces pizzas. Je ne les ai pas testées, je ne les ai pas achetées. Mais en tout cas, dans mon esprit, je me suis dit, depuis quand on passe de YouTubeur au rayon surgelé ?
Comme depuis quoi. Qu'il y a de l'argent, Laetitia.
Oui, c'est exactement ça. En fait, dès qu'il y a des opportunités, finalement, pourquoi s'en priver ? Et du coup, Mr. V, il a raison, en fait.
Je m'attendais à ce que tu balances un autre truc. Ok, il a raison. Ok, super.
Peut-être bientôt le café de l'e-commerce sur du quick commerce
et
on vous va proposer des bonbons, des loutis, des crémas, des méchocos sponsorisés.
Ouais,
attends, il y a bien McFly et Carlito qui font tout un tas de partenariats. On est aussi célèbres qu'eux. Hein.
Donc on va se lancer dans les partenariats. Faut qu'on en discute en off ou alors c'est du 5e degré. D'ailleurs j'ai regardé le site la Carambar & Co. Donc Carambar c'est sur du WordPress et Carambar & Co. Enfin la boutique c'est sur PrestaShop, donc toujours base PHP, solution française, open source. Donc voilà. Quoi de neuf chez nous ? Quoi de neuf chez nous ? C'est la rubrique que vous adorez tous, que vous nous plébiscitez. Et c'est la rubrique où on parle de nous, de ce qui s'est passé, et puis dans notre monde et dans le monde de l'e-commerce. Et Tia, il s'est passé quoi ? J'ai l'impression qu'il s'est passé un paquet de trucs.
Dans mon monde, alors dans le monde LC2, le podcast Le Café de l'e-commerce, on vient de s'équiper et on va bientôt débarquer dans le Metaverse. On vous en dit pas plus, on est juste équipé pour le moment.
T'as déjà tout dit.
Il n'y a rien d'autre.
Je savais pas que t'allais balancer le truc. Ok, d'accord.
En tout cas, si vous voulez participer à l'aventure, si vous avez des recommandations, des conseils, des tips.
C'est quoi le teasing là-dessus
n'importe quoi.
Vu que t'as tout dit, qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de deviner
aidez-nous. Help, aidez-nous. Souvenez-vous, Adrien, il y a encore quelques épisodes, c'était No Way qu'il y mette les pieds. Et là, le gars est équipé. Donc, attention, bientôt, il aura ses propres NFT.
Je partagerai mon avis dans quelques semaines, parce qu'il y a toujours le premier, la lune de miel au début, c'est génial. Enfin, donc, on prendra un peu de recul. Mais effectivement, dans le sens aidez-nous, c'est si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, vous voulez tester des trucs, de toute façon, un, on vous tiendra au courant. Et deux, n'hésitez pas à nous contacter, parce que on va explorer ça. Et puis, on vous prépare des petites surprises. Quoi d'autre, Laetitia ?
Quoi d'autre ? Eh bien, vous savez que je suis une fan de Carrefour, je suis une fan de live shopping et j'ai assisté à un super live shopping. C'était il y a une semaine maintenant, c'était vendredi dernier et je tiens à préciser que j'étais absolument pas la cible. Je sais même plus comment je suis tombée dessus parce que j'étais pas inscrite. Enfin voilà, je crois que j'ai dû faire un tour en regardant la section live shopping et là je tombe sur un live shopping. Il était 18h.
Mais qui se balade sur Carrefour sans rien avoir à faire ?
Il y a personne. Non, mais en plus, j'y vais juste pour le live shopping et là je vois qu'il y a un live exceptionnel. Avec Alexandre Ruiz qui est un journaliste sportif. Alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices le savent. Et Ludovic Julie qui est un ancien footballeur. Et donc je me dis mais qu'est-ce qu'ils font là ? Parce qu'en fait Alexandre Ruiz sa voix elle m'est trop familière. Enfin je l'entends tous les jours de match en fait puisque je suis avec quelqu'un qui est fan de foot. Et du coup je me dis mais je le connais. Et je me dis mais l'autre aussi je le connais. Je me dis qu'est-ce qu'ils font là ? Et je me rends compte que c'est un live shopping qui est dédié à la Ligue des Champions. Donc sponsor. pas sponsorisé, mais en tout cas qui est dédié à la Ligue des Champions, puisque souvenez-vous, c'était à l'approche du match PSG-Real. Du coup, je me dis, mais de quoi ils vont parler les mecs? Et en fait, eh ben, écoutez, je me suis prise au jeu, parce que ça parlait de pronostics, bien évidemment. Ils sont bien jonglés, et puis entre-temps, ils faisaient gagner des PSP, ils faisaient des pronostics, ils ont fait d'autres petits jeux comme ça, et puis au passage, eh ben, bien sûr, il y avait du placement de produits. Et donc, je regarde l'ensemble des produits, en totalité, il y en avait 16. Et je fais une petite recherche, je me dis, mais c'est bizarre, je les connais ces produits, parce que je les vois un peu en image comme ça, lors de soirées de foot. Et bien évidemment, c'était tous les sponsors de la Ligue des Champions, donc on avait bien évidemment PlayStation, toute la galaxie PepsiCo, Doritos, Rockstar, qui est la dernière energy drink de PepsiCo. Tout ça pour dire que ça avait un côté très familier, et que c'est pour ça que j'ai été happée par le truc, parce que bien évidemment, je savais qu'il allait avoir un match très important. La discussion était très, très, enfin, l'ensemble des discussions, c'était très léger, c'était hyper accessible, et surtout dans le chat, ça parlait, et les mecs, en plus, enfin, les animateurs, ben, ils étaient super cool, ils appelaient des gens qui avaient participé au jeu, et donc on avait les gens en live, comme si on assistait à ça faisait libre antenne, et c'était trop bien, et je vous jure que même moi, j'avais envie de jouer. Tout ça pour dire que, encore une fois, c'était un super live par Carrefour. J'ai félicité d'ailleurs Cast, Antoine Leclerc, en lui disant que vraiment, je voyais l'amélioration parce qu'il y a eu zéro bug. Et puis surtout, ça passait crème, comme on dit, les placements de produits. Donc voilà, et puis on apprenait des choses. Donc l'e-commerce et l'infotainment, bah, ça peut peut-être fonctionner en réalité. Et bien sûr, il y avait des liens et on pouvait aller acheter directement tout notre petit package de soirée foot.
Ce podcast m'échappe complètement. Tu vas bientôt parler de poker et puis ça y est, Carrefour, foot, poker. Qu'est-ce que je fais là? Je me sens complètement perdu. Bon, en tout cas, ils ont réussi à te faire regarder, rester jusqu'au bout.
Donc, c'est quand même, ça devait, je le rappelle.
Ouais, c'est ça. Ça devait être assez dynamique et interactif pour rester. Ça a duré combien de temps? Tu voyais combien il y avait de personnes en simultané? Oui,
alors, je voyais pas le nombre, mais c'était affolant le nombre de personnes qui participaient, qui parlaient.
Oui, mais après, t'as plus de 200 personnes. Entre 200 et 2000, tu vois pas la différence, quoi. Enfin, tu vois, ouais, le chat va hyper vite.
Je pense que c'en est un qui a beaucoup fonctionné, parce qu'en plus ils faisaient gagner des PSP, et puis tu vois l'actualité bien chaude du football. Je pense que vraiment ça a bien fonctionné. Bon, d'ailleurs Antoine me l'a confirmé, il m'a dit que ça avait bien fonctionné ce live,
donc il balance les chiffres en off, c'est bien.
Ah, il m'a rien dit.
C'est ça, tu viens de dire que si t'as lâché les trucs. Ok, quoi d'autre Laetitia, encore d'autres
allez,
choses?
Allez, une dernière news. Vous savez, dans le café de l'e-commerce, on adore le re-commerce, tout ce qui est seconde main, et j'ai une amie, je le dis, c'est Macha, qui organise le vide dressing des citadines. Donc en fait, vous pouvez participer à ce vide dressing, vous pouvez être exposante pour la modique somme de je ne sais plus combien, mais c'est dérisoire, ça se passe dans le 13e, et vous pouvez aussi acheter, et tout ce qui ne sera pas acheté sur place sera disponible sur son site e-commerce, et je mets tout dans la barre d'infos. Non, la barre d'infos c'est sur YouTube, dans les notes de bas de page.
Ça m'avait manqué les dédicaces perso et les dédicaces à des amis, c'est vrai.
Il faut rendre humain un peu ce podcast. Voilà, et
très
toi
bien.
Adrien, qu'est-ce ben non, je reprendrai la parole plus tard. Et toi Adrien, de ton côté, quoi de neuf chez toi?
Il y a que 5 jours qui sont échappés. Moi je suis à Londres, j'ai échappé à la tempête Nice, mais bon, moi je le découvre quand je débarque ici parce que je regarde rien de ce qui se passe derrière ma fenêtre. Donc heureusement, apparemment c'était la merde il y a quelques jours, et aujourd'hui ça s'est calmé. Et puis effectivement, peut-être en complément de tout ce que tu dis, il y a un sujet là que je suis en train de regarder. Donc pareil, je fais un petit peu un appel aux auditeurs, ou en tout cas la communauté. Je suis en train de regarder les livraisons en consigne. Alors pourquoi? Je sais pas. J'ai commencé à me regarder ça il y a quelques semaines. Les lockers, les consignes. Oui, Amazon fait ça. Carrefour a essayé, il me semble. La Poste, pardon. J'en vois un peu partout. Je suis pas certain que ça prenne bien en France, mais voilà, je suis en train de récupérer des données et puis j'aimerais bien le couvrir dans quelques épisodes. Donc si vous avez des infos, des ressources, ou si vous connaissez un expert là-dessus et que vous pouvez me mettre en relation, ça serait top. Donc un petit sujet que j'aimerais bien couvrir.
Est-ce que tu vas tester, Adrien, les consignes?
J'ai jamais testé et je me vois pas du tout tester. Je trouve ça complètement inutile, mais justement c'est pour ça que je vais au-delà de ça et je me dis ça a forcément une utilisation.
On en reparlera parce que du coup j'ai aussi un avis, et quand tu discutes avec des gens qui ne sont pas dans des grosses villes comme nous, dans des grosses métropoles et qui sont pas en télétravail, finalement, et ben ça a son intérêt, les consignes.
J'ai appris qu'en Pologne par exemple, c'est un, parce que ça me touche la Pologne, du coup c'est un moyen très 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 utilisé, donc c'est pour ça que je veux creuser, parce que culturellement aussi tu vois qu'il y a des fits en fonction des pays. Mais est-ce que la France, on n'y est pas parce que il y a d'autres solutions, les points relais par exemple? Donc voilà, je suis en train de creuser tout ça, je reviendrai avec des petits chiffres, des petites études, des petites analyses, et puis on en discutera. Mais c'est un sujet qui me paraît hyper intéressant. Et pourquoi, en fait, je vais te donner la raison pourquoi j'ai j'ai commencé à regarder ça, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai lu une news, je ne l'ai pas couverte au podcast parce que ça ne me paraissait pas super intéressant, qu'Amazon allait doubler le nombre de lockers qu'il avait au UK. Et je me suis dit, ah ouais, c'est un truc qu'on ne voit pas vraiment en France. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser. Donc je reviendrai vers vous. J'en ai déjà beaucoup trop parlé, donc j'en parlerai bien quand il y aura des choses concrètes à dire. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat, on se met sur la tronche et le tout sans langue de bois. Laetitia, qu'est-ce que tu as vu pour nous cette semaine ?
Eh bien écoutez, encore une fois, je ne suis pas la cible, mais j'ai pas regardé, mais en tout cas j'ai prêté attention comme tous les ans au halftime, donc la mi-temps du Super Bowl. Parce que
comme tout le monde, je crois que c'est plus les pubs qui nous intéressent que le match.
Non mais moi les pubs, je les ai regardées en long, en large, en travers, et alors le halftime exceptionnel avec Snoop, Dr. Dre, voilà, j'étais on fire, hein. j'étais trop heureuse. Je l'ai regardé au moins 50 000 fois. Je crois que j'ai usé YouTube avec ça.
Je connaissais personne sur des chanteurs, tu vois.
Quoi?
J'ai vu les trucs de la pub.
Mais arrête, Mary J. Blige, tu l'as pas
reconnue. Il y avait que Eminem.
Mary J. Blige, elle est dans notre émission.
Laetitia, je sais que je suis pas le seul.
Non, t'es le seul. Voilà. Je te le dis tout de suite. T'as pas reconnu Snoop, Dr. Dre, Kendrick Lamar. Tu les connais pas. Ils te disent rien, même quand tu les entends.
Oui, oui.
Bon,
ils m'ont mis en transe.
Bon, j'ai écouté 50 000 fois et je me suis dit, mais quand même, il a un truc particulier ce Super Bowl parce que c'est des papy. Le rap s'est jamais trop mis en avant, c'est surtout de la pop pendant le halftime. Je me dis, mais qu'est-ce que ça nous évoque, tous ces gens-là? Ça nous évoque de super années, hyper fast, où on n'avait pas trop de e-commerce encore, mais c'était les débuts du e-commerce. Et quand je fais le parallèle avec tout ce qui s'est passé, enfin, toutes les pubs qui sont passées, on a quand même pas mal de pubs qui nous montrent beaucoup de tech, beaucoup de des choses, de l'industrie dans laquelle on évolue. Pour rappel, on a quand même eu du Salesforce, Codebase, FTX, Amazon, Alexa, Criteo, Meta, qui ont fait des pubs, et je me suis dit, mais en fait, c'est nous tout ça, enfin, ce Super Bowl, c'est nous, parce qu'on est nés et on a grandi surtout.
C'est très B2B, c'est vrai,
ouais,
que c'est étonnant
exactement.
De voir ces boîtes, quoi.
Et on a grandi avec du Snoop, et qui travaille aujourd'hui dans toutes ces boîtes-là, c'est nous, c'est la Gen Z, et donc je voyais le parallèle, pour moi, il était assez évident, alors peut-être que je suis toute seule dans mon délire, mais en tout cas, on a tous écouté du Snoop et du Dr. Dre, et en tout cas, nous, dans notre entourage, très tech, et on a tous quelqu'un qui travaille chez Criteo, chez Amazon, ou dans le groupe Meta ou Salesforce ou des anciens d'ailleurs. Donc en fait, ce Super Bowl pour moi, il était hyper lisible et accessible en fait. Parmi les pubs que j'ai regardées en long, en large, en travers, il y a Squarespace qui est une solution e-commerce que je connaissais, mais qui pour moi n'était pas ouf. Surtout, j'étais loin d'imaginer qu'ils avaient les moyens de se payer une pub pendant le Super Bowl. Et surtout, j'ai adoré parce que c'est Zendaya. Et je pense que vous le savez pas, mais Zendaya, c'est ma star number two après Lena Situation. Je l'adore.
Et c'est qui Zendaya?
Zendaya, c'est une actrice.
Pour les gens comme moi qui connaissent ça.
C'est une actrice. Bah, elle a fait Superman. Entre autres, et puis surtout l'égérie de comment est-ce que ça s'appelle cette série, Euphoria, lancée par comment est-ce qu'il s'appelle, Drake. Désolée, j'étale toute ma culture musicale.
Tia, ce faut podcast que vous le m'échappe complètement. Je ne comprends rien de ce que tu racontes. Je me sens, mais
bref,
je me suis trompé de podcast. Je ne pige rien du tout
Laze
de ce que tu dis.
Et Codebase, c'était mes trois pubs préférées. Et franchement, allez-y et vous verrez. C'était comme dit Adrien, c'était des pubs hyper B2B. Je sais pas, ça me fait bizarre moi de voir tous ces gens qu'on connaît qui sont dans des pubs issus de pour notre industrie. Très étrange.
J'ai regardé juste une petite vidéo YouTube sur les top 10. Donc il y avait les 10 pubs parce que j'ai pas passé le temps à toutes les regarder. Et sur les 10, il y avait Salesforce. Et là, ma bouche est tombée, quoi. J'aurais jamais imaginé qu'une boîte B2B comme ça, parce qu'ils font pas de B2C.
Oui.
Ouais, je n'ai même pas reconnu les acteurs. Donc franchement, bref. Donc c'était assez intéressant. Et puis je sais pas s'il y a vraiment un grand changement, mais bon, ça reste. Il y a plein de pubs B2C, les classiques, là, les bières et compagnie. Donc mais voir un Salesforce ou d'autres, c'est vraiment un changement. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, Laetitia, pour cette semaine, j'avais quelque chose qui est peut-être un peu moins sexy, c'est Google Analytics qui va être interdit en France. Je l'avais classé au début dans le what the fuck, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné quand j'ai commencé à lire ça. C'est extrêmement complexe. C'est parce qu'il y a des imbrications techniques et légales. Donc, je voulais juste en parler pendant 2-3 minutes, expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que c'est potentiellement... l'impact, il est tellement grand que je vois même pas comment ça peut être réel ce qu'on est en train de vivre. Parce que potentiellement, là, tous les sites sont... presque aucun site n'est compliant. Comment on dit compliant, Laetitia ? Respecte les règles, c'est ça. Alors, de quoi il s'agit ? Écoute, le tweet de la CNIL, il résume tout. Donc, je vais te le lire et ensuite, je vais expliquer ce qui se passe. Le tweet est le suivant. Saisi par Neube... Là, peut-être que je prononce mal, la CNIL, en coopération avec ses homologues européens, a analysé les conditions dans lesquelles les données collectées par Google Analytics sont transférées vers les États-Unis et estime que ces transferts sont illégaux. Donc, on est en train d'avoir la CNIL qui a travaillé avec ses homologues en Europe, qui a regardé ce que fait Google Analytics et qui s'est dit c'est pas compliant, c'est pas, ça respecte pas RGPD et donc c'est illégal et donc il va y avoir des amendes et potentiellement bah, si c'est illégal, il faut la somme tous les sites internet qui utilisent Google Analytics de bah, d'arrêter d'enlever le Google Analytics. Bah là c'est très compliqué parce qu'en fait donc déjà ça demande, c'est un travail énorme pour tous les sites de migrer vers autre chose. Google Analytics c'est extrêmement populaire, ça me touche particulièrement parce que j'ai commencé ma carrière directement dans l'analytics, donc j'ai vu les débuts du lancement de Google Analytics il y a 15 ans et petit à petit ça s'est imposé et puis en fait Laetitia, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, je crois même que la norme c'est à la base t'as Google Analytics et puis ensuite t'as une solution peut-être Enterprise, t'as d'autres solutions qui viennent complémenter. Et également il faut savoir que Google Analytics est très bien intégré avec l'autre écosystème, enfin l'écosystème Google en général, donc à partir du moment où tu fais de la pub, tu utilises ta configuration Google Analytics. Du coup, les options, c'est quoi? Je vois trois options possibles. Première option, complètement irréelle, mais première option, bah, les États-Unis qui changent leur réglementation sur la protection des utilisateurs européens. Je pense qu'ils s'en foutent complètement, donc j'y crois pas une seconde. Deuxième possibilité, après le corollaire, c'est deuxième possibilité, c'est l'Europe qui change, mais ça non plus, ça arrivera pas. Donc on va dire changement réglementaire, j'y crois pas trop. Deuxième option, c'est on met en place des nouveaux outils en Europe qui vont pouvoir remplacer. Alors ça existe, mais il va falloir qu'à minima il soit, que ça fonctionne correctement et que ça puisse remplacer. Ouais, c'est ça, aussi puissant. En tout cas, même si c'est pas assez puissant, mais que ça fasse le taf. Et on parle pas juste d'analytics, parce que si tu réfléchis une seconde, c'est-à-dire tout, n'importe quel outil que tu vas utiliser de pub, de tracking, de ce que tu veux, et tu le vois de toute façon tous les marqueurs que tu utilises, toutes les solutions que tu utilises sur ton site, c'est juste ingérable. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'on puisse tout remplacer. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il y ait des solutions européennes, mais je le vois pas trop. Et la troisième option, c'est Google Analytics spécifiquement parce qu'ils ont été pointés du doigt, alors qu'en fait on pourrait l'appliquer sur un paquet d'outils. C'est Google Analytics qui s'adapte. Et en réalité, c'est déjà le cas depuis des années. Donc, on pourrait très facilement tomber sur du Google bashing. Et alors là, j'adorerais avoir le feedback d'autres personnes. Mais depuis des années, Google a énormément amélioré son outil pour pouvoir donner des outils, des fonctionnalités aux marchands ou à n'importe quel propriétaire de site de gérer la donnée, de l'effacer. Ils ont communiqué sur combien de temps ils traitent la donnée, ils le gardent, etc. Donc il y a un paquet d'outils qui ont été mis à disposition. Et il y a également un truc qui s'appelle le DPA, c'est Data Processing Agreement. N'importe quelle boîte, enfin moi ça fait des années que je bosse pour des éditeurs et tu fais signer également ce DPA au client et ça te, enfin, aux marchands, on va dire aux marques. Et ça te donne, on va dire, un cadre de traitement des données. Donc, malgré tout ça, donc parce qu'il y a bien un DPA avec Google, malgré tout ça, c'est incompatible. Il y a énormément de raisons, mais j'ai l'impression, en ayant creusé pas mal d'articles et d'analyses, que ça tourne principalement autour d'un sujet, c'est le Unique User ID de Google Analytics. Donc, c'est un ID, c'est pas personnel, parce qu'il n'y a pas ton nom, il n'y a rien du tout, c'est pas ton IP, mais c'est un hash, on va dire, c'est un identifiant encodé qui va permettre, qui ne va pas permettre de te reconnaître, mais qui va faire en sorte que tu es identifié ou que tu es unique, et ben ça, c'est pas compliant avec la RGPD parce qu'ils considèrent que c'est une donnée personnelle. Donc c'est vraiment sur ce point-là qui fait que ça bascule. Ben écoute, on va voir ce qui va se passer. Ça peut être, je vais pas dire que c'est la fin du monde, mais en tout cas, ça peut être l'impact peut être très important parce que la majorité des sites vont devoir migrer, et pas juste en France, on parle d'Europe. Je trouve que Google a fait beaucoup d'efforts pour être compliant en termes d'RGPD. La gestion des données personnelles, ils l'ont fait côté navigateur. Tu sais, on en avait parlé avec les flocs qui ont été tombés, et puis maintenant c'est Topix, ou avec Android ils ont un truc autour de Privacy Sandbox. Donc ils font des efforts pour te donner la main d'utiliser mieux la donnée. Alors ils vont pas se couper de la pub, hein, ils vont continuer à faire de la pub, mais on va dire ils font beaucoup d'efforts pour être en phase avec les règles européennes et les règles législatives. Donc écoute, je vais voir on va voir s'il y a d'autres condamnations.
Tu le sens comment, Adrien? Tu le sens que
moi,
c'est
très mauvais. Sens que c'est très mauvais, c'est méga chaud tendu, parce qu'en fait l'Europe, ils se disent il faut pas se laisser faire, on va commencer à légiférer, et je trouve que c'est une bonne chose. Donc je veux pas non plus tomber dans l'autre extrême, parce que en fait, il faut qu'on se montre fort en Europe. Et je trouve ça très bien qu'on soit conscient de cela. Il faut juste, je pense que ça va prendre un long moment avant qu'on transitionne. Et il y aura peut-être quelques amendes pour l'exemple. Mais ensuite, si tu t'imagines que Google Analytics c'est un exemple, mais après toutes les autres solutions qui sont utilisées, eh ben, il va falloir regarder comment les données sont traitées. papier, bah, ça a un impact. Enfin, ouais, enfin, bon, bref, on s'en
sortira
jamais.
Moi, j'arrive pas à imaginer. Ça me paraît tellement utopiste.
C'est extrêmement récent pour le moment. Je ne sais pas trop si la solution Google, ils vont réussir à trouver quelque chose et peut-être trouver un accord. Je ne sais pas trop. Mais ensuite, si on sort de Google, qu'on va ailleurs, ça va avoir un impact. Donc du coup, ça impacte pas juste les sites e-commerce, ça impacte n'importe quel site qui utilise du Google Analytics. Donc on pourrait se dire que c'est disproportionné par rapport au marché. Mais c'est peut-être aussi un coup de pression pour montrer dans quelle direction l'Europe veut aller. Donc écoute, on va regarder. Je suis bluffé par cette news et j'ai hâte de voir dans quelle direction ça, est-ce que ça va se calmer ou est-ce que ça va continuer à prendre de l'ampleur.
Eh bien, tu suis le sujet. Tu es chargé de projet là-dessus.
Pendant que tu regardes les pubs, sympas, marrantes, je vais aller fouiller les cookies, etc. Quoi. Je vais aller voir Werner, parce que c'est l'expert là-dessus.
Chacun son taf. Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon, qui d'ailleurs avait une pub pendant le Super Bowl.
Ouais, elle était bien la pub ou pas?
C'était Alexa et c'était avec Scarlett Johansson et c'était plutôt pas mal.
Amazon, bah, y avait plusieurs choses. Encore une fois, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description. On apprend, c'est marrant parce qu'on en avait parlé, je me souviens très bien l'année dernière, le nombre d'employés d'Amazon. Je pensais que c'était plus que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont publié il y a quelques jours leur quatrième trimestre, les performances, etc. Et donc, ils ont annoncé qu'ils avaient 1,6 million d'employés dans le monde et plus d'un million aux États-Unis. Je ne suis pas certain. Non, ce n'est pas le plus grand employé au monde. Il ne me semble pas, parce que je crois qu'en Chine, il y a plus nombreux. Mais bon, plus d'1,6 million d'employés dans le monde, c'est énorme. Et après, on pourrait discuter des conditions de travail, etc. On en avait déjà parlé dans le dernier épisode. Et puis aussi des salaires, du churn, etc. Enfin, il y a plein de problèmes qui sont liés à tout ça. Deuxième chose qui est également égaltrice, mais bon putain, le monde dans lequel on vit, c'est ouf. J'avais noté ça, ce monde va mal, alors on danse. Petite dédicace à la chanson. Et en fait, t'as pas dû voir ça, mais tu sais, aux États-Unis, il y a les caméras devant les portes quand tu te fais livrer, etc. Et en fait, les personnes qui se font livrer sur Amazon, ils mettent en commentaire sur le livreur, est-ce que tu peux me faire une petite danse quand tu livres le truc? Donc tu peux dire, c'est marrant, mais faut pas oublier que donc il y en a qui jouent le jeu, tu postes ensuite ça sur TikTok, mais en fait, c'est pas des animaux, tu vois.
Enfin, oui, exactement.
Le truc, c'est qu'après, tu peux... Non, et surtout, tu peux noter les
danses, livreurs, les chorégraphies.
Tu danser notes surtout stars, si t'as été satisfait ou pas du livreur. Et donc, c'est un cercle super vicieux parce qu'en fait, tu peux te dire aussi, le mec qui va pas danser, bah, il va avoir une mauvaise note. S'il est mauvaise note, tu te souviens, on dégage direct, c'est des algorithmes. On en avait déjà parlé l'année dernière. Donc, du coup, c'est un peu d'un côté...
Mais Adrien, je comprends pas. TikTok, c'est quoi? C'est un challenge TikTok? C'est quoi? C'est un truc qui est proposé par Amazon?
C'est parti par un utilisateur qui a posté ça, ça a buzzé, ensuite l'autre en jouait le jeu, et là Amazon ils savent pas trop se positionner dessus. D'un côté ils se disent bah c'est fun, ça nous fait de la pub, ils ont l'air contents et tout, d'un autre côté ça met des coups de pression aux livreurs parce qu'en plus il va falloir qu'ils fassent les macaques à danser dans les trucs, et après quand tu demandes aux livreurs, ils disent écoute on a d'autres problèmes, les conditions de travail, la voiture qui marche pas, machin, truc bidule, donc c'est, on va dire dans la liste des problèmes, c'est pas le plus gros, mais je me dis juste c'est dans quel monde on vit, tu vois, pour en arriver à cette situation.
C'est une news what the fuck hein, pour moi.
Ouais, on aurait pu le mettre dedans.
Bah, je ne sais pas combien de livraisons fait un livreur par jour, et il faut qu'il danse et qu'il fasse une petite choré à chaque fois.
Alors, c'est pas sur toutes, mais c'est juste de dire, ouais, c'est un peu bizarre. Et enfin, autre information, moi, qui m'a bluffé, c'est je voulais que ça soit le chiffre de la semaine, mais j'en ai gardé un plus amusant. C'est 16,9 milliards de dollars. C'est le budget pub d'Amazon en 2021. C'est le plus gros budget de l'histoire. Et c'est plus 55% par rapport à 2020. Donc, si on en doutait encore, Amazon, ils investissent à mort sur la pub. Pas juste le Super Bowl, bien sûr, mais sur Google et sur tous les sites. Ils sont partout. Et puis, ils mettent un max de pognon pour continuer à investir et acquérir de plus en plus de personnes.
Métaverse, Métacommerce, Métanews, c'est la rubrique dédiée au Métaverse. Que vous soyez novice, expert ou juste curieux, on vous embarque dans le Métaverse. Adrien, quelle news as-tu relevé cette semaine dans le monde du Méta?
Alors, j'essaye de, comme l'archéologue un peu, j'essaye de virer les trucs qui sont parasites, tout le bruit. C'est très difficile parce que tout le monde parle de Métaverse. Donc, tu regardes tout ton flux, tu regardes tes news et tout le monde parle que de ça. Là, j'en ai sélectionné une, c'est Casino. Et en fait, pourquoi j'ai sélectionné, je vais te l'expliquer dans une seconde. Donc, c'est Casino qui dévoile ses ambitions transition sur, dans le Web3. Et j'ai creusé un petit peu. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois, contrairement à une enseigne que tu adores et tu parles chaque semaine d'eux et qui surperforme.
Alors que je ne consomme jamais, je ne mets pas un pied chez eux.
ouais, non, là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont expliqué le use case. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu achètes une parcelle, ok, c'est cool, tu as mis de l'argent pour acheter de manière virtuelle, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et donc, et Casino, ils expliquent tout. Qu'on adhère ou pas, je ne sais pas. Enfin, on peut en discuter, mais en tout cas, j'ai bien aimé qu'ils expliquent ce qui va se passer. Donc, on est en test, ils sont en train d'expérimenter le Web3, le métavers, etc. Donc, Club Leader Price, c'est donc ils vont adresser leur cible, leur client Club Leader Price. C'est un service de course. Alors moi, je suis pas client, donc ça me parle pas trop. Mais c'est, on va dire, le premium. Tu vois, c'est les primes. C'est le service de course en ligne sur abonnement. Pour cela, ils vont mettre dans les courses qui vont être livrées, ils vont mettre à la Willy Wonka, tu sais, un petit ticket d'or. Quand tu auras ce ticket d'or, donc déjà, ça, même si tu participes pas, tu t'en fous, tu vas recevoir dans tes courses à un moment donné un ticket d'or. Tu ouvres ce ticket d'or et ça va te permettre. Il y aura des instructions pour que tu ouvres un wallet et que tu crées ton avatar en ligne. Une fois que tu as créé ton avatar et que tu as ton wallet, tu vas pouvoir participer à des jeux, à des quêtes, et tu vas remporter des bons d'achat, différentes choses, dont des bons d'achat que tu pourras utiliser offline. Donc ça, je trouvais ça élégant parce que tu as un vrai, c'est pas juste de la gamification en ligne, mais tu vas pouvoir faire des trucs offline. Et donc ça, c'est la première partie. Je me suis dit, ok, je comprends, moi Adrien l'abruti, je comprends qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Ils testent en plus avec leurs clients fidèles, donc ça c'est plutôt cool, ils verront leur feedback.
Ouais, c'est un programme de fidélité.
Ouais, mais la deuxième chose qui me paraît pour le coup super intéressante, et c'est pour ça que je comprends bien pourquoi tout le monde veut se positionner en premier, c'est qu'ils vont pouvoir, et ce qui est cool, c'est qu'ils en parlent, parce que moi, je ne sais pas si j'en aurais parlé dès le début comme ça, mais pas qu'ils réfléchissent, mais ils vont le mettre à disposition en marque blanche pour d'autres marques, et ils vont pouvoir même louer les espaces virtuels. Et là, je trouve que c'est intéressant d'avoir partagé cette stratégie. Donc, ce qu'ils sont en train de monter là, ils vont pouvoir avoir des enseignes plus petites et leur proposer ces mêmes mécanismes, ou voir quand tu payes une blinde. Bah, c'est comme de l'immobilier, en fait, c'est de l'immobilier métavers, ou je sais pas comment on appellerait ça, l'immobilier virtuel. Et ouais, bah, si tu trafiques, c'est le mall, enfin, c'est les centres commerciaux, quoi. T'as un endroit, il est populaire, bah, tu vas louer un espace ou du shop-in-shop, on l'appellera comme on veut, et tu vas pouvoir le louer. Donc aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de trafic, enfin, ça commence. Mais j'ai bien aimé parce que plus on voit les use cases et plus on se projette et on sent de manière un peu plus concrète ce que c'est que le Web3 et ce qu'on va pouvoir voir dans le métavers. Le use case, là, il te parle, Laetitia, enfin, que tu sois client ou pas, c'est un truc que tu vois que ça peut fonctionner.
Ouais, carrément. Enfin, franchement, alors, je suis pas du tout cliente. Mais moi, ce que je me demandais toujours avec cette histoire de métavers, c'est comment est-ce qu'on fidélise, et alors déjà comment est-ce qu'on peut acquérir des clients, mais comment on les fidélise. Et là, du coup, ça s'illumine comme par magie. Effectivement, on transpose un programme de fidélité dans le monde du métavers. C'est plutôt ingénieux à voir aussi à l'usage, mais je trouve que en tout cas ça alors j'aime pas ça, mais ça fait sens. En tout cas, c'est logique dans une dynamique de grande distribution, ouais, et surtout le fait de pouvoir partager, de se proposer un peu comme un espèce de WeWork du Web3. Enfin, c'est la logique du Web3, de toute façon tout se fait en de manière collaborative et dans le partage.
Après, le truc sur la location, c'est que potentiellement il n'y a pas de limite, mais bon, bref, après c'est pas vrai,
ouais, après
ça dépend ce que tu fais, où c'est, tout ça. Bon, bref, donc on verra bien dans le truc, mais ça, c'est typiquement le genre de truc j'aimerais bien tester, tu vois. Je m'abonnerais bien, j'irais bien tester leur truc, etc., voir comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est des choses.
Ouais, c'est là, dans
on va spoiler sur ce qu'on va
c'est
faire.
C'est dans la tout.
Ouais, voilà, c'est dans la tout, dans le futur de tester tout ça.
Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept que nous n'avons pas l'habitude de traiter, ni Adrien, ni moi-même. Cette semaine, direction Macao avec Nicolas de Retailoscope. Spoiler, on parle toujours de magasins avec Nicolas, on parle souvent de luxe, et là, cette semaine, on va parler de joaillerie.
Et aujourd'hui, nous prenons un café avec Nicolas Rebet de Retailoscope. Comment ça va, Nicolas ?
Mais très bien. Bonjour Adrien, bonjour Laetitia.
Bonjour Nicolas. Il n'y a que la maman Nicolas qui l'appelle Nico. Mais maintenant, c'est Laetitia aussi qui t'appelle comme ça. Ok.
Ma maman ne m'appelle même pas comme ça.
Ah d'accord. J'arrive jamais à t'appeler Nicolas, j'ai toujours Nico. Nico de Retailoscope. La promiscuité s'est installée.
C'est parfait.
Bon, meilleur vœu Nicolas. On est content de te retrouver dans cette chronique. Avec quoi es-tu venu cette année ?
Meilleurs vœux à tous les deux. Je suis ravi de vous retrouver également pour une nouvelle année avec LCDE. Alors cette année, pour bien commencer l'année, on va commencer avec une année luxe. On va commencer avec Cartier. Cartier qui nous présente depuis le début de l'année une nouvelle boutique à Macao. Et pourquoi cette boutique m'a intéressé ? Parce que on connaît Cartier qui a développé plusieurs pop-up avec un aspect digital et des expériences digitales à l'intérieur. Mais là, on passe un cran parce que jusqu'à présent, c'était uniquement quasiment des pop-up temporaires. Ici, on est sur une boutique sur le plus long terme. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le cadre de sa communication Cartier Love Is All, ils ont voulu habiller d'expérience digitale au pluriel cette boutique à Macao. Tout commence à l'extérieur, où le client, avec son smartphone, peut retirer, comme s'il était en réalité augmentée, le ruban qui entoure la boutique. Et on commence l'expérience ainsi. Je précise que tout le thème de la boutique est lié à la boîte rouge cadeau qui est un des symboles de Cartier. Et donc, ce côté très cadeau qui va arriver avant le nouvel an, avant toute la période des cadeaux en Chine, a une importance particulière. Je rajoute également qu'avec toute la pandémie et les nouvelles lois qui vont arriver en Chine, le luxe sera majoritairement acheté en Chine et plus en Europe ou ailleurs comme on pouvait le faire. Donc, les marques investissent un maximum sur leur point de vente en local pour pouvoir activer leurs clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'on rentre dans la boutique, Cartier a développé quelque chose qui, moi, me semble intéressant, mais j'aimerais rencontrer quelqu'un de la marque pour mieux comprendre l'usage. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'application Cartier Profile, le client rentre quelques souhaits, quelques objectifs par rapport à ce cadeau qu'il souhaite, et l'application lui donne des recommandations en fait d'achat et de cadeaux par rapport à la personne à laquelle c'est destiné. En tant que j'ai envie de dire représentant du commerce physique, moi je me pose la question par rapport au vendeur, quel rôle aura le conseiller de vente dans ce parcours client qui est digitalisé ? Parce que normalement c'est quand même partie du rôle du vendeur. Si on considère que c'est une application qui est utilisée pendant un temps d'attente, par exemple, ça peut avoir une grande valeur ajoutée. Si ça arrive pendant l'achat, là, je me pose la question et c'est pour ça que j'aimerais vraiment savoir comment ça se passe. Donc, s'il y a des gens de Cartier qui m'écoutent, je serais ravi d'échanger avec eux. Le suivant, c'est la façon dont on a animé ce point de vente. Et là, ils ont créé quelque chose d'absolument assez dingue. C'est un espace qui est lié à un système d'enregistrement pour que le client puisse reprendre la fameuse chanson « Love is All » de Roger Glover façon karaoké. On connaît l'attirance en fait de la clientèle chinoise, notamment pour tout ce qui est post sur les réseaux sociaux. Donc là, ça permet de maximiser l'UGC réalisé dans cette boutique. À la fois, on se met en scène en tant que client dans un univers Cartier et ça permet évidemment de communiquer sur le point de vente, sur les réseaux sociaux. Donc, je trouvais que la résonance était bonne. Ensuite, on a tout un mural de parfumerie qui permet de s'éclairer selon les volontés du client. Pareil, hein, c'est lié à l'application que le client aura sur le point de vente. Et enfin, comme toute expérience retail maintenant en Chine, un WeChat mini-programme a été développé pour qu'on puisse maintenir la relation après la visite, mais aussi qu'il y ait une certaine forme d'attirance avant de venir en boutique. Le mini-programme le permet.
Nicolas, on a déjà des chiffres, des retombées, parce que moi, là, de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que ça ne peut que cartonner, en fait, parce qu'il y a tous les ingrédients pour un gros succès.
Alors, l'expérience a été lancée il y a quelques jours seulement hein, à Macao par Cartier. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de KPIs qui sont tombés sur ce point de vente parce qu'elle a été ouverte le 26 décembre, très, très exactement.
Mais tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Le WeChat, tu parles du karaoké, tu parles donc on sent bien que bah, c'est implanté localement avec les us et coutumes locaux. Il y a du social commerce. Il y a tout cet aspect luxe aussi et cet aspect aussi immersif avec le ruban. Enfin, c'est génial. Tout ce que tu nous racontes, moi, j'ai l'impression d'y être.
Exactement. Je trouve que c'est un très bon exemple, celui-là. C'est pour ça que j'ai choisi parce qu'il mélange un petit peu tout, mais version asiatique. Faut bien se poser la question de la traduction d'une telle expérience en France et en Europe. Je pense qu'on ne pourrait pas du tout l'appliquer de la même façon. Même si j'aime bien le côté digital et figital de cette expérience là-bas.
La cible qu'ils ont pour ce pop-up store, elle me paraît plus jeune ou jeune par rapport à leur client typique. Est-ce que ça adresse la même cible ou non ? Ils essaient de toucher une autre cible plus jeune, réseaux sociaux, etc.
C'est déjà le cas de toute façon pour la Maison Cartier, hein, qui réalise un chiffre d'affaires absolument incroyable sur le Tmall, le Luxury Pavilion de Tmall. Donc en fait, Cartier vise une clientèle jeune, quoi qu'il en soit, sur son e-commerce. Ça, c'est une traduction aussi plus physique de cette stratégie, mais c'est excessivement présent auprès des jeunes générations Cartier là-bas. Donc il y a des shoppers très jeunes qui ont la capacité de s'acheter des produits de luxe, et Cartier devient un des symboles quand même assez vite de l'accession au luxe en digital ou en physique.
Nicolas, on sent bien que, comme je te le disais, c'est très adapté au marché asiatique. Comment est-ce qu'on pourrait transposer ça au marché européen? Est-ce que c'est possible déjà avec les mêmes techniques, les mêmes tactiques?
Oui, ça semble possible. Mais effectivement, le côté digital est possible. Maintenant, il faut repenser les expériences. Le côté VR, OK, on peut l'utiliser. Le côté karaoké, typiquement, ça ne marchera absolument pas. Donc, il faut se poser les bonnes questions, à savoir quelles sont les expériences digitales qui vont enrichir mon client européen dans son point de vente. Moi, je crois beaucoup plus à ce qui est centré sur ses besoins plutôt qu'un côté entertainment. Donc, ça va être parler du produit, parler de l'univers de marque, parler de ce qui touche le client lui-même, plutôt que le divertir, en tout cas si on est sur une expérience point de vente. Bien entendu, si on est hors du point de vente, là, on peut avoir tout l'entertainment qu'on veut de façon digitalisée, ce qui, quoi qu'il en soit, renforcera l'attachement à la marque d'une façon ou d'une autre.
Merci beaucoup.
Petite blague, je ne suis pas d'accord avec toi sur le côté karaoké, parce que moi, j'irai.
Tu fais un karaoké chez Cartier, toi.
Voilà. Et deuxième chose, Nicolas, on ne vient plus prendre un café chez LCDE sans venir avec des codes promo. Est-ce que tu as un code promo Cartier?
Non, j'aimerais vachement bien l'utiliser déjà pour moi-même. Attends, j'ai un code promo au retail, là, c'est déjà pas mal. Ouais.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un pop-up store qui serait similaire en France, là aujourd'hui, qui serait ouvert? Parce que je suppose la fin d'année, ça a donné beaucoup d'idées à beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des trucs qui existent comme ça? Pas au UK, pas en Allemagne ou ailleurs, mais en France, il y aurait quelque chose de similaire ou rien?
Bah Nico, tu as été assez déçu de ce qu'on a vu là en fin d'année en France.
C'était pas foufou. Moi, j'ai fait une expérience Cartier sur les Champs, peut-être en septembre ou octobre, pour le relancement de la tank solaire, machin. Bon, tu as un photocall, c'est pas mal, mais l'expérience en elle-même, elle n'était pas dingue. Donc non, je n'ai pas vu à peu près la même chose, mais en Europe, ils n'osent pas y aller. Un truc que j'ai bien aimé cependant, c'est l'exposition Van Cleef qui a été faite là sur les fleurs, où tu avais un QR code sur chaque vitrine, où tu peux avoir une explication plus développée du produit. Ça, c'était pas mal fait.
Nico, Jacquemus, t'avais réussi ou pas à...
Non.
C'était bien quand même.
Là, c'était disruptif. Là, c'était vraiment disruptif. 3 heures d'attente pour rentrer dans un truc de 18 mètres carrés rose, si tu veux, dont tu avais déjà vu les photos, je m'en suis dispensé.
Mais oui, ouais, là, mais pour l'expérience d'appuyer, d'ouvrir. Peut-être qu'il faut resituer pour Adrien.
Pour Adrien, pour 99% des auditeurs. Là, vous êtes partis en private joke, private discussion. J'ai essayé de rattraper les trucs, mais...
Jacquemus, ça fait un pop-up opère 24 heures sur 24 pendant 3 jours, complètement rose, où tu avais des produits enfermés dans des coffres forts. Voilà, c'était assez disruptif. Et il y a Tudor aussi, j'ai vu ça juste ce matin, qui a lancé une vending machine de montres sur les champs, donc je vais peut-être y passer là tout à l'heure, voir ce que ça donne.
Merci beaucoup Nicolas, toujours à l'affût de tout ce qui se passe, c'est canon. Pour te contacter, la page LinkedIn et puis Retailoscope, et puis félicitations pour ce partenariat avec Hub Institute, on a vu passer ça, donc longue vie à Retailoscope et félicitations pour tous tes succès et pour cette année 2022 Nicolas.
Merci à vous, c'était un plaisir comme à chaque fois, et à très bientôt.
Au revoir.
À très bientôt, et si vous voulez suivre toutes les informations de Nico du Retailoscope, et bien il faut le suivre sur LinkedIn et sur sa page Insta Retailoscope.
Reco micro, au micro on fait notre reco, écoutez la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Adrien, quel est ta reco de la semaine?
Ça va être plusieurs recos regroupés dans une. Pour le coup, là, je remercie Julien Fontaine du groupe WhatsApp qui a partagé un lien, et ensuite j'ai remonté un peu la piste, etc. J'ai fait l'explorateur et j'ai trouvé des trucs super intéressants. De quoi il s'agit?
Il s'agit des rapports e-commerce de Wunderman Thompson. Wunderman Thompson, vous connaissez certainement, et si vous ne connaissez pas, c'est une grosse agence de com marketing qui appartient à WPP, un des plus gros au monde. Agence de com, c'est-à-dire qu'ils savent très très bien faire du communiquer, faire du design, faire des trucs, faire des produits qui sont, enfin, de la com qui est propre. Et pour l'occasion, ils ont plusieurs rapports e-commerce, et on ne les attendrait pas nécessairement sur l'e-commerce, mais j'ai adoré. Tous les rapports qu'ils ont faits, ils sont beaux, ils sont accessibles hyper facilement. Ils mettent en avant les KPI, ils mettent aussi en avant what's in it for the brand. Tu vois, c'est donc, ok, on te met des trucs et tout ça, mais alors donc so what, tu vois. Moi, ça, j'ai beaucoup aimé. J'en ai sélectionné 4 que je vous invite à parcourir en fonction de vos affinités. Et je vais passer 20 secondes, Laetitia, sur chacun pour te dire 2-3 trucs que j'ai kiffé. Et ensuite, je laisserai, bien sûr, ils font chacun genre 50-60 pages. Le premier, c'est Intro into the Metaverse. C'est celui que Julien avait recommandé. À l'intérieur, une des premières pages, on demande à une dizaine de participants de définir le métavers. Donc ça, déjà, j'ai kiffé l'approche parce que tout le monde a sa définition. Alors tu vois que chacun y va dans son angle, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis après, c'est un rapport qui est super complet, enfin hyper intéressant. Ça serait même, j'ai même pas envie d'en parler parce qu'en fait ça va juste limiter ce que c'est. T'as certaines pages où il y a aucun texte, c'est juste des images, et donc c'est vraiment c'est hyper agréable à parcourir. Un petit point d'interrogation, Laetitia, moi je trouve, de toutes les news, enfin de tous les sujets que je lis sur le métavers, j'ai jamais entendu parler de l'industrie pour adultes. Oui, sujet tabou, attention, mais pourquoi? Parce qu'en fait c'est aussi
l'industrie
un
du
gros
sexe,
vecteur.
Tu veux dire, c'est ça?
C'est ça, exactement. Okay. C'est une grosse industrie qui va potentiellement faire décoller ou qui va faire, où il y a beaucoup d'argent. Et j'ai trouvé un autre rapport, bon bref, vous regarderez en ligne, il y a 3 industries qui peuvent faire décoller le métavers, ou en tout cas c'est hyper intéressant. Le porno, le gambling, donc c'est le jeu.
Il parle vraiment de porno ou il parle de sextech ou de choses comme ça? Non, c'est vraiment industrie pornographique. Ouais,
voilà, c'est ça. Mais après, ça englobe beaucoup de choses. D'accord. Alors là, on parle pas de c'est pas dans WPP. Hein. Là, c'est autre chose. Je fais juste une petite parenthèse. C'est que dans le métavers, il y a ces 3 trucs. Donc, porno, on comprend bien. Le gambling, parce que tu peux avoir des casinos infinis.
Ouais, enfin, la gamification.
Illimité.
Ouais.
Exactement. Et les militaires, on comprend aussi, tu te mets dans un tank, etc. Tu peux imaginer plein de choses. Donc, c'est 3 industries qui peuvent utiliser le métavers de manière vraiment très poussée. Et donc, il y a beaucoup d'argent. Ça peut driver beaucoup d'argent. Bref, je ferme la parenthèse. Deuxième rapport qui était intéressant, c'est Commerce Futures 2022 pour les 10 prochaines années. Donc, c'est quoi les tendances pour les 10 prochaines années? Et il y a des trucs what the fuck. C'est pour ça que j'ai kiffé. Parce qu'en fait, ce que j'adore, c'est que les gens du marketing, ils s'en bat les couilles.
Tu nous fais une breaking news, là.
Non, d'accord, je vais vite. Mais Laetitia, tu vas kiffer. C'est Space Commerce. J'ai jamais entendu ça. Donc, Space Commerce, dans l'espace. Ouais, c'est ça. Kit Commerce et Twin It to Win It. Et j'adore les Anglais parce qu'ils font des expressions comme ça. C'est en gros ton double numérique que tu vas pouvoir dupliquer, etc. Bon, bref, je vous laisserai. Et puis après, il y a les plus seconde main, live streaming, game commerce.
Donc, ta reco, c'est ce rapport. C'est ça, hein. Que tu nous as partagé.
Non, enfin, il y en a plusieurs. Donc, Into the Metaverse, Commerce Future, les 10 prochaines, The Forgotten Shopper. Est-ce que tu sais c'est quoi le Forgotten Shopper, le shopper qu'on oublie?
Non.
Ça dit quelque chose?
Non.
La Silver Economy, ça te dit quelque chose?
Ah, c'est l'industrie des personnes âgées, ça. Ouais.
Exactement, plus de 50-60 ans. Donc ça aussi, c'est un troisième rapport que je vous invite à regarder. Et le dernier, c'est le B2B, Future Shopper Report. Pareil, je vous invite. Donc c'est ces 4 rapports parmi tous les rapports qu'ils ont que je vous invite. Je vous ai mis un lien et ils sont vraiment bien faits. Et donc voilà, j'étais un petit peu long, mais ça vaut vraiment le coup. Ils sont super faciles à consulter. Laetitia, c'est quoi ta reco?
Une reco beaucoup plus courte. Je vous conseille The Storyline. The Storyline, c'est un podcast. Ce sont des outils, des articles, un bootcamp pour les pros du storytelling. En gros, vous voulez vous améliorer en storytelling, eh bien vous allez sur le site de Storyline. Moi, je suis abonnée au podcast et à la newsletter. Et la dernière newsletter sur les NFT, elle est juste magique. En gros, on nous explique, la personne derrière, c'est une fille, elle s'appelle Noémie Kampf, et elle décortique vachement bien les NFT, même pour ceux qui n'y connaissent absolument rien. Il y a deux petits points que j'ai retenus, c'est que c'est principalement investi pour le moment par des hommes, et que bah, du coup, où sont les femmes comme d'habitude. Et l'autre point, c'est que bah, voilà, ça rejoint tout ce que tu disais, c'est que y a des gros potentiels, mais ça reste encore à prouver. Voilà. Donc voilà, The Storyline, c'est ma reco de la semaine.
Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, c'est où on se détend et on s'amuse. Bah, on va être les maîtres du jeu à tour de rôle et on va s'amuser autour des sujets du digital. N'hésitez pas à vous prendre au jeu et à répondre plus vite que nous. Participez de votre côté pour trouver les réponses. Laetitia, tu avais deux jeux de ton côté. On commence par le French Connection. Tu rappelles ce que c'est ?
Alors, je vais vous citer des noms, des mots, dans un ordre plutôt aléatoire. Et puis, vous allez essayer de deviner le fil connecteur, ce qui relie tous ces mots ou tous ces noms. T'es prêt, Adrien ?
Yes.
Chanel, Louis Vuitton.
Un truc avec le métavers, ça je sens.
Dior.
Ok, luxe.
Bugatti. Hermès. Chloé. Saint Laurent. YSL Beauty, ce qui est en français Yves Saint Laurent Beauté. Lanvin.
Aucune idée.
Et Jacques Muche, mon petit chouchou. Aucune idée. Bon, déjà, t'as le point commun, c'est le luxe. Mais ce n'est pas ça. Ce sont les marques les plus suivies sur Instagram. Pour l'année, c'est pas pour l'année, mais pour l'année 2021, et c'est selon le rapport Instagram 2022 qui a été publié là par HubSpot et Mansion. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on y voit ? Comme tu l'as justement dit, c'est que ce sont des maisons de luxe, mais elles sont françaises. On passe de Chanel à Dior, on a juste Bugatti qui n'est pas français. Et voilà. Et alors, si je te dis le nombre d'abonnés, Chanel, c'est 48,1 millions.
48 millions, c'est le premier, c'est ça ?
C'est ouais,
le
plus gros. C'est Chanel, ouais. Le plus petit, c'est Jacquemus avec 4 millions. Dans... Alors, effectivement, moi, je suis abonné à Jacquemus, ça c'est sûr. Hermès aussi, Chanel peut-être, et le reste non, pas du tout.
Et pourquoi t'es abonné à ces comptes ?
Alors justement, pourquoi je suis abonnée ? C'est parce que j'aime bien tout le storytelling et tout ce qui est fait autour de ces comptes. Je crois que notamment, Dior, je crois, qui avait fait toute une mini-série de podcasts que j'écoutais depuis Instagram. Alors c'est sur des produits de beauté ou des choses comme ça, et voilà pourquoi je suis ça. Et puis bah, Jacquemus, parce que c'est Jacquemus et que c'est un génie, et que j'adore tout ce qu'il fait, aussi bien en ligne qu'en physique. Donc voilà, les seuls qui arrivent à égaler ces comptes-là, ben, ce sont des footballeurs. On a par exemple Cristiano Ronaldo, ou alors même Kylian Mbappé, ou alors même des comptes de clubs de foot. Donc voilà, Cocorico, bravo la France.
Et du coup, elles communiquent sur Instagram, elles font des campagnes sur Instagram, qui restent que sur Instagram, ou elles réutilisent sur les autres réseaux sociaux ?
Oui, bah, alors souvent elles réutilisent sur les réseaux sociaux, mais d'une différente manière. Je pense par exemple à Dior, qui communique différemment sur Twitch, qui va préférer mettre en avant ses défilés, par exemple. Voilà, c'est l'exemple que j'ai en tête. Ou Hermès, okay, qui va plutôt mettre en avant le savoir-faire de la grande maison, qui d'ailleurs vient de publier ses chiffres mirobolants, pas sur Instagram.
On passe au chiffre de la semaine, Laetitia ?
Oui, on passe au chiffre de la semaine. Si je te dis 69%, tu me dis que c'est le pourcentage d'Américains qui avouent préférer acheter un produit chez Amazon plutôt que dans une autre enseigne. Tu me dis que c'est le pourcentage de Français qui a déjà laissé un avis client sur Internet. Ou tu me dis que c'est le pourcentage de Français inscrits sur les listes électorales.
Non, c'est le dernier. Ah, non, je pense que... Ouais. Bah non, je dirais le deuxième, un avis. Ouf, non,
un avis client, Amazon ou les listes électorales ?
Non, le premier.
Quoi, le premier, le pourcentage d'Américains qui a vous préféré acheter un produit chez Amazon plutôt que dans une autre enseigne. Eh bien non, c'est même pas 69, c'est 89%. Alors, c'est sur un panel. C'est sur un petit panel, mais bon... le niveau de confiance en Amazon est assez exceptionnel. Et 69%, eh bien, c'est le pourcentage de Français qui ont déjà laissé un avis client sur Internet. Donc, c'est une étude qui a été menée par YouGov et Realtime sur les Français et sur les avis clients. Contrairement aux avis reçus, eh bien, les internautes français aiment bien laisser des avis positifs. Et celles qui sont le plus enclines à laisser des avis, eh bien, ce sont les femmes qui laissent majoritairement des avis clients. En moyenne, elles sont 63% et les hommes, eux, sont 48% à laisser des avis clients. Tu laisses des avis clients, toi, Adrien ?
Quasiment jamais.
Ah d'accord. Eh bien, écoute, moi, je confirme l'étude. Oui, je laisse des avis clients. Et en plus,
positif
je
négatif.
Et bien, toujours positif. Moi, je n'aime pas casser comme ça. Je me dis que c'est tellement, ça peut avoir des conséquences tellement terribles de laisser un avis négatif que je ne le fais pas.
Ouais, un jour j'avais laissé un avis négatif, le lendemain je l'ai effacé. Parce qu'en fait on sait l'impact que ça, c'est intemporel, tu vois. T'es énervé un jour, mais ça va des années pour le business, là, il va porter cette note. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Malheureusement, on est en vie sous la dictature de la note. Enfin bon, on en a déjà parlé plein de fois. T'avais un autre chiffre, Laetitia ?
Non, c'est bon, okay. Mais je crois que toi t'as un chiffre de la semaine.
Ouais, j'en ai un, c'est 89. Alors, tu vas kiffer parce que...
Ouais. Vas-y.
Exactement. Non, c'est amusant parce que j'ai utilisé les rapports que tu adores, que j'ai mes recommandations en fait de tous ces rapports, j'ai chopé des chiffres. Et donc, 89, c'est en pourcentage. Et j'ai fait un par rapport, donc tu vas sourire. En pourcentage, le nombre de seniors qui ont dit que l'online les avait beaucoup aidés pendant le Covid,
Qui ont dit que quoi ? Le online, ok.
Les avaient beaucoup aidés pendant le Covid. En pourcentage, le nombre de consommateurs qui croient au commerce spatial ou en pourcentage, le nombre de sociétés qui trouvent que c'est plus complexe d'acheter offline que online.
Moi, je suis un peu fofolle en ce moment. J'ai envie de dire que c'est le space commerce parce que j'adore Elon Musk.
Alors, c'est... Ouais, bah, tu vas voir dans le rapport, il parle de ça, etc. Donc je, et c'est pas que les voyages spatiaux. Donc, je vous invite vraiment à regarder le rapport. Donc, non, c'est 56% pour le nombre de consommateurs qui croient au commerce spatial. Le nombre de seniors qui ont dit que l'online les avait beaucoup aidés, c'est 54%. Et 89%, c'est le nombre de sociétés. Donc, on a un B2B qui trouve que c'est plus complexe d'acheter offline qu'online. Ça veut dire que l'opportunité de faire du e-commerce en B2B, il est énorme, exactement, il est immense. Donc voilà, je crois qu'on a tout faux. Alors Laetitia, c'est cool, pour une fois personne n'a gagné, on augmente de plus en plus, c'est de plus en plus difficile, mais je suis sûr que nos auditeurs ont trouvé les bonnes réponses.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet agréable moment. Pour retrouver les références à cet épisode, rendez-vous dans la note de l'émission ou sur le site lecafédelecommerce.fr. N'oubliez pas de nous lâcher 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous rendre au vide dressing de Macha. N'oubliez pas de regarder les vidéos des pubs du Super Bowl, surtout le halftime. Et n'oubliez pas de suivre Snoop Dogg. Adrien, merci beaucoup.
Merci beaucoup à tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.
Ciao, à la semaine prochaine.
Chers citoyens du monde, moi, Willy Wonka, ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie.
5 tickets d'or ont été cachés dans le papier d'emballage de 5 tablettes ordinaires de chocolat Wonka.